En une année, nous avons changé le visage de la vie politique française.
Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer, les classes moyennes.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche Politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Adrien Delgrange, ce que disent les uns, les autres. Et nous décrypterons tout cela avec Jean-Yves Cahume. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, chercheur associé à l'IRIS. Et vous publiez dans quelques jours, sous la direction de Dominique Vidal, Les nationalistes à l'assaut de l'Europe aux éditions Démopolis. Si hier, lors des manifestations des Gilets jaunes, il y a eu quelques échauffourées, en revanche, pas de saccage, pas de violence comme la semaine dernière. L'armée n'a pas eu à ouvrir le feu sur la foule comme le fantasme et la polémique a couru cette semaine quand il a été décidé de faire appel aux soldats de l'opération Sentinelle pour maintenir le calme. Tout le monde a frémi quand à la radio, le général Bruno Léré, gouverneur militaire de Paris, avait lancé ça.
Les consignes sont extrêmement précises, ils ont différents moyens d'action pour faire face à toute menace. Ça peut aller jusqu'à l'ouverture du feu.
Jean-Yves Camus, l'armée appelée à faire du maintien de l'ordre, cela renvoie à des moments difficiles de la République. Comme historien, rafraîchissez-nous la mémoire.
L'armée a été utilisée tout au long du 19e siècle et jusqu'au 20e. Clémenceau lui-même en avait fait l'usage. La dernière fois que la troupe a été chargé de mater un mouvement de grève, c'était en 1947, et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout cela s'est fait naturellement dans la violence, puisque le rôle de l'armée, c'est de faire la guerre. À partir du moment où elle est au contact direct des manifestants, elle peut être amenée à ouvrir le feu.
En 47-48, c'était la révolte des mineurs qui avait été battue, il y avait eu 6 victimes.
Hein. Exactement. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que... Après l'extrait que l'on vient d'entendre, le président de la République et le ministre de l'Intérieur ont bien dit qu'il n'y aurait aucun contact direct entre les soldats de l'opération Sentinelle et les manifestants, puisque les soldats de l'opération Sentinelle étaient mis en position de remplacer des éléments qui, eux, étaient déplacés vers le maintien de l'ordre, parce que c'est leur métier, policiers et gendarmes, et qui, les fois précédentes, étaient en garde statique devant le périmètre qui était construit autour des principaux lieux officiels. Donc, tout était fait pour qu'effectivement, il n'y ait pas cette confrontation qui pouvait amener, notamment si des manifestants s'attaquaient aux soldats, à des tirs de riposte.
Mais c'est inédit sous la Ve République.
C'est inédit sous la Ve République, et effectivement, tout le monde s'est emballé un petit peu vite. Ceci étant, la question reste ouverte de savoir comment le dispositif va pouvoir être pérennisé. Gabriel Attal disait ce midi, tant que la situation restera comme elle est, eh bien le dispositif restera en place. C'est tout à fait naturel. S'il est mis en place, c'est naturellement pour éviter que les incidents précédents se renouvellent. Mais en même temps, il y a une réelle question, c'est de savoir combien de temps il sera possible de maintenir un dispositif aussi important. Et si les Gilets jaunes ne s'arrêtent pas de manifester assez vite, ce sera effectivement compliqué de le maintenir en place.
Cette citation, un état de droit, une démocratie, la République ne saurait accepter que l'armée se retrouve face au peuple comme si elle était, comme s'il était l'ennemi, ce peuple, comme si la guerre civile était déclarée. Déclaration d'organisations comme Attac, Génération, l'Humanité, l'UNEF, le FSU, le PCF, le NPA, le SNES ou encore le syndicat de la magistrature. Adrien Delgrange, il y a eu bien d'autres prises de position et autant de condamnation.
A commencer par exemple sur RTL ce matin, le philosophe Raphaël Glucksmann qui fait son entrée en politique puisqu'il est devenu il y a maintenant une semaine tête de liste aux européennes d'une alliance avec le Parti Socialiste et son mouvement politique Place Publique. Raphaël Glucksmann critique à l'égard de la politique d'Emmanuel Macron.
La vérité, c'est que c'est quand même un aveu d'impuissance grave et je pense une logique dangereuse que de se servir de l'armée pour suppléer les forces de maintien de l'ordre. On est dans un moment où on est face à une crise sociale, et donc il faut y répondre de manière sociale et politique. C'est 30 ans d'impuissance publique, cette crise. Mais simplement, quand on sait, comme Emmanuel Macron, qu'on est élu sur un baril de poudre, eh bien la première chose qu'on fait, c'est pas de faire des cadeaux fiscaux aux riches et d'insulter les pauvres.
Et dès le milieu de la semaine, le sujet a attisé les diatribes, notamment avec cet échange houleux entre le président du Modem, François Bayrou, et le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, lors d'une émission de télévision avec les principaux chefs de parti.
Voilà très maintenant bien. Pour les militaires qui passent le maintien de
oui,
l'ordre.
Oui, s'il le faut, avec ce qu'on a vu, avec des
et
mois
qu'est-ce qui se passe après,
et des
François,
semaines
qu'est-ce qui se
et
passe
des mois.
Tire.
Non, mais on n'a pas besoin de ça.
Mais alors on a besoin de quoi?
Oui, mais
de quoi parlez-vous? Si vous
mettez alors ce matin, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal, s'en est pris à Jean-Luc Mélenchon. Il l'accuse de surenchère.
Il y a eu une surcommunication et une surinstrumentalisation des oppositions. Et c'est totalement irresponsable ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il cherche l'escalade des violences. Jean-Luc Mélenchon, il aimerait, je pense, qu'on ait un accident grave dans une manifestation. Si quelqu'un venait à décéder dans une manifestation, je suis pas sûr qu'il le regretterait. En tout cas, je pense que ça servirait sa course à l'escalade et sa course à l'instrumentalisation.
Alors même si tout le monde s'accorde à dire que ce samedi, vous le disiez Philippe, les violences ont été évitées comparées à celles de la semaine précédente. Des affrontements ont éclaté entre Gilets jaunes et forces de l'ordre, notamment à Montpellier, Lyon, Bordeaux et à Nice, où une manifestante de 73 ans est blessée à la tête. Le parquet de Nice a ouvert une enquête. Un incident qui fait réagir Renaud Muselier, le président des Républicains de la région PACA.
Il y a une interdiction qui est faite. Il y a aujourd'hui une femme qui est blessée apparemment gravement et je souhaite qu'elle récupère le plus vite possible la peau. Mais je pense qu'il faut revenir sur le principe de base. La police ne doit plus reculer. La police ne doit plus reculer dans ce
même cas. À ce prix-là, même au prix de
un problème qui est un
blessé.
Vrai problème, qui est un vrai problème et on verra après l'enquête ce qu'elle dira. La police ne peut plus reculer dans ce pays, sinon c'est la chienlit.
Renaud Muselier qui reprend le général de Gaulle sur France 3 ce midi.
Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. L'armée n'est en aucun cas en charge du maintien de l'ordre et de l'ordre public, a répliqué Emmanuel Macron en réponse aux critiques. Le président de la République a aussi condamné ceux qui jouent à se faire peur. Est-ce que vous diriez avec un peu de recul que les esprits se sont enflammés un peu trop vite cette semaine ?
Les esprits se sont enflammés parce qu'on est en face d'une situation effectivement exceptionnelle, d'une situation politique et sociale exceptionnelle et d'une décision exceptionnelle qui a pu passer pour l'engagement de l'armée dans un face-à-face avec les manifestants. Le dispositif avait été mal compris, peut-être qu'il a été mal expliqué. Il est assez normal qu'il y ait des réactions un petit peu excessives, mais celle que je viens d'entendre sur la police ne peut plus reculer, elle est un peu excessive aussi parce que d'abord personne ne fera croire qu'une militante de 73 ans représentait un danger pour l'ordre public, et ensuite parce que je voudrais bien que la police ne recule plus dans des quantités d'autres circonstances où chaque jour elle a la possibilité de maintenir l'ordre, où il y a des désordres importants qui sont commis dans certaines localités de France et où on n'entend pas le même discours de fermeté.
Hier, ce sont environ 40 500 personnes, dont 5 000 à Paris, qui ont manifesté pour l'acte 19 des Gilets jaunes, soit un peu plus que le samedi précédent. Mais du côté des Gilets jaunes, qui ont établi leur propre mode de comptage et contestent celui des autorités, ils étaient 127 000 dans tout le pays. Quand vous regardez l'histoire, est-ce que cela vous rappelle quelque chose dans le mouvement protestataire, voire factieux, puisque c'est le terme que certains ont utilisé pour dénoncer certains Gilets jaunes ?
Alors les factieux, on va commencer par là, ce sont ceux qui veulent mettre à bas les institutions, la République, par la voie de la violence. Ça n'est donc, depuis le début du mouvement, qu'une partie des Gilets jaunes.
Ce qu'on appelle les casseurs.
Oui, ce sont... Alors, il faut faire la distinction. Il y a des casseurs, c'est-à-dire des gens qui viennent exclusivement pour la casse, qui se greffent sur le mouvement, qui arrivent généralement à la fin des cortèges, et qui viennent pour piller. Et puis, il y a très certainement aussi, certains de mes collègues l'ont expliqué, des Gilets jaunes qui, effectivement, viennent pour participer aux manifestations des Gilets jaunes et ne voyant aucune solution politique à leurs revendications, estimant qu'ils ne sont pas écoutés, récusant le grand débat, ce en quoi, à mon avis, ils ont tort, sont à un moment donné tentés par l'escalade et par l'usage de la violence, y compris contre les forces de l'ordre.
Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, premier soutien de ces Gilets jaunes qui demandaient à l'époque l'annulation des hausses de taxes sur le carburant et des prix de l'énergie, ont protesté contre une hausse probable des prix de l'électricité. Au-delà, comment vous observez cela? Également le fait qu'une des figures des Gilets jaunes, Benjamin Cauchy, figure en bonne place dans la liste Debout la France pour les européennes.
Écoutez, Benjamin Couchy a une certaine proximité avec Nicolas Dupont-Aignan. Il tient, ceci étant, un discours assez raisonné. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que dire que Marine Le Pen a, dès le début, été aux avant-postes du soutien aux Gilets jaunes, c'est un peu excessif. Elle a effectivement manifesté sa convergence de vue avec les premières revendications des Gilets jaunes sur les taxes, mais elle est restée quand même très prudente au début du mouvement, parce que elle était comme les autres, elle savait pas très très bien de quoi ce mouvement était fait et vers où il allait. Et au fond, elle a eu la prudence de considérer que, quoi qu'il arrive, il y avait dans cette mobilisation un aspect anti-État, un aspect révolte fiscale, un aspect protestataire qui, de toute façon, même si elle ne prenait pas parti ouvertement et même si elle ne se montrait pas dans les cortèges, ce qu'elle n'a pas fait, hein, elle allait être arithmétiquement et électoralement gagnante, ce qui semble, au vu des sondages aujourd'hui, être à peu près le cas, puisqu'on est au coude à coude, dans la marge d'erreur des sondages, entre La République En Marche et le Rassemblement National.
Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite, dans Dimanche Politique sur RFI. Une fois n'est pas coutume, le président du Sénat rue dans les brancards et va même au clash. Gérard Larcher a lui aussi voté à main levée ce que l'Élysée a vécu comme une déclaration de guerre, à savoir la transmission à la justice des déclarations de trois proches collaborateurs du président de la République. Ils sont accusés de faux témoignages devant la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla. Le torchon brûle donc entre l'exécutif et une partie du législatif, Adrien.
Une décision qui a d'ailleurs valu à la Haute Assemblée d'être accusée par le gouvernement de se muer en tribunal politique, ce qui a déclenché une avalanche de critiques à travers cette compilation de réponses et toujours les mêmes mots à la bouche ou les mêmes éléments de langage.
Le Sénat ne vise qu'un objectif, la transformer en affaire politique. C'est une décision d'ordre politique. Le Sénat a fait un choix, très clairement, de devenir une machine de guerre politique.
C'est une déclaration de guerre politique.
On est là dans un dévoiement des options qui sont données au Sénat à des fins exclusivement politiques.
Cette décision ne repose sur aucun fondement, ni en fait, ni en droit. C'est donc une décision politique qui a été prise par le bureau du Sénat.
Lorsqu'il s'agit de démarche politique, je n'ai pas de commentaire à faire.
Une compilation de BFM TV. Alors, le Sénat sous le feu des critiques. Patrick Kanner, président socialiste du groupe PS au Sénat sur LCP, argumente, lui, sous forme de question.
Est-ce que le Sénat dérange dans son rôle d'équilibre des pouvoirs? Est-ce qu'il a le droit de travailler de manière un peu autonome, sans la pression de l'exécutif? Est-ce qu'il a le droit de dire à l'exécutif, mais peut-être qu'il y a eu des problèmes de dysfonctionnement au sein de l'Élysée sur la question de la sécurité du président?
La charge la plus lourde vient de Mediapart, par la voix de son fondateur, le journaliste Edoui Plenel. Le journal est en première ligne sur l'affaire Benalla, avec de nombreuses révélations.
Les courtisans du président de la République font bloc avec ce délinquant, car il est accusé de délit. Donc, il y a là un énorme mystère. Et il y a là un scandale. Il devrait laisser faire la justice et, encore une fois, les pouvoirs. Il ne respecte pas la séparation des pouvoirs.
Edoui Plenel sur BFM TV.
Jean-Yves Camus, considérer que tout contre-pouvoir est mauvais, que toute recherche de la vérité est contraire aux intérêts du pays, finalement, c'est un mode de défense classique en politique.
C'est un mode de défense classique, sauf que là, il s'agit de la Haute Assemblée, qui, bien moins que l'Assemblée nationale, est d'habitude sous la pression de l'exécutif. Moi, il ne m'apparaît pas que dans cette affaire, le président de la commission d'enquête, Philippe Bas, soit un dangereux révolutionnaire. C'est un homme de la droite modérée. Alors, il fait de la politique. Évidemment qu'il fait de la politique. C'est un élu. Il a une étiquette politique. Pour autant, il tire parti d'une situation qui n'aurait pas dû être une situation politique et qui s'est muée en sparadrap dont le président de la République a du mal à se débarrasser. Au départ, si les sanctions avaient été prises à temps, contre un collaborateur qui, de toute évidence, avait failli, je crois que ce sparadrap n'existerait pas. Et à force de laisser les choses dériver, eh bien, l'exécutif se retrouve effectivement avec une affaire qui lui colle au basque. Elle ne devra pas, évidemment, obéirait les résultats que le gouvernement aura dans le traitement des principaux problèmes du pays. Mais enfin, tout ça pour ça, c'est quand même un peu gâcher sa cote de popularité, gâcher sa relation avec la Haute Assemblée, sachant quelque chose que au départ était assez...
Oui, il avait dit à l'époque, Emmanuel Macron, tout cela, cette affaire Benalla, c'est une tempête dans un verre d'eau. Finalement, à ce jour, c'est l'affaire du quinquennat, comme chaque président en traîne une. Pour cela, il n'y a pas d'ancien et de nouveau monde.
Non, pour ça, il n'y a pas d'ancien et de nouveau monde. Chaque président de la République a effectivement traîné comme un boulet telle ou telle révélation liée ou à son comportement personnel ou, en ce qui concerne François Hollande, à sa vie privée. Et je trouve rétrospectivement que tout ce qu'il a subi, d'ailleurs, comme attaque à l'époque, était tout de même un petit peu dérisoire parce qu'il s'agissait précisément de vie privée. Ça n'avait pas d'incidence sur sa sécurité personnelle et sur la sécurité de l'État. Alors là, on a effectivement, au départ, un collaborateur qui faute. S'il avait été mis à l'écart tout de suite, cela serait passé pour un de ces multiples incidents qui arrivent à chaque fois que des cabinets arrivent en place. Dans tous les cabinets, après une prise de fonction, il y a des gens qui font pas l'affaire et très vite on s'en sépare et puis on tourne la page. Là, ça n'a pas été le cas.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
RFI. Philippe Le Caplain.
Demain, la justice se prononcera sur le recours de Nicolas Sarkozy contre la décision des juges de le renvoyer en correctionnel dans l'affaire de corruption, trafic d'influence à la Cour de cassation, une affaire qui remonte à 2014, écoute téléphonique, financement libyen de la campagne de 2007, et puis un Nicolas Sarkozy qui se fait appeler Paul Bismuth. Bref, tout cela, on verra cela demain. De quoi il retourne. En attendant, l'ancien président a fait parler de lui, Adrien.
Et oui, puisque Nicolas Sarkozy était à Budapest hier, reçu par Viktor Orban. Et pourtant, le parti du Premier ministre hongrois a été suspendu cette semaine du PPE. Le PPE, c'est ce groupe des partis de droite au Parlement européen. Suspension de 3 mois pour avoir dénigré le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Étonnamment, hier, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, UMP, est allé rendre une visite de courtoisie à celui qui est banni par la droite européenne. Une visite qui n'étonne pas Renaud Muselier, député européen Les Républicains.
C'est des responsables politiques qui ont de l'estime l'un pour l'autre et qui ont travaillé ensemble. Je crois que le président Sarkozy est en contact avec tous les chefs d'État du monde qui souvent lui demandent conseil, aide et assistance. Je pense qu'ils doivent se parler.
Mais ça n'engage que Nicolas Sarkozy, ce que vous voulez dire.
Exactement.
Et puis à 2 mois maintenant du scrutin, intéressons-nous à l'extrême droite. Thierry Mariani, le candidat à Rassemblement National aux élections européennes, était l'invité de France Inter ce matin. Il avait juré en 2015 ne jamais adhérer au FN. Il a donc fini par franchir le pas. Mais il a encore du mal à savoir où il se situe politiquement.
On a un programme qu'on ne pourra pas appliquer parce qu'on n'a pas les alliés. Que le Républicain ne pourront pas appliquer parce qu'ils n'ont pas d'alliés. Avec qui les Républicains veulent gouverner demain? Avec les déçus du macronisme? Ça veut dire qu'on n'appliquera pas le programme. Avec les centristes? Ça veut dire que là aussi, le programme ne pourra pas être appliqué. Les seuls qui ont un programme à peu près cohérent avec ce que demandent sur les sujets régaliens les Républicains, c'est le Rassemblement National. Il est temps de rassembler tous ceux qui ont les mêmes idées.
Et des idées, il en a.
Par exemple, sur l'Europe, la position aujourd'hui de notre liste est très claire. On veut rester dans l'Europe, on veut réorienter l'euro. C'était pas forcément la position il y a quelques années.
Thierry Mariani sur France Inter ce matin.
Jean-Yves Camus, vous participez donc à cet ouvrage collectif « Les nationalistes à l'assaut de l'Europe ». Ça veut dire que on a le sentiment que ce sont les partis d'extrême droite finalement qui se mobilisent le plus dans la perspective de ces européennes, alors qu'ils sont très critiques à l'endroit de l'UE. Et c'est un paradoxe.
Oui, ils ont compris que vouloir sortir de l'Union européenne, vouloir sortir de l'euro, c'était anxiogène pour leur électorat. Et ils ont aujourd'hui l'ambition de peser le plus possible dans le prochain Parlement européen. Ils disent conquérir une majorité. Bon, ce sera une minorité plus forte qu'actuellement. Et leur idée, c'est de réorienter la machine de l'intérieur, de cesser d'être des outsiders et d'être des gens qui pèsent sur les décisions, éventuellement sur les nominations d'un certain nombre de commissaires, pour réorienter l'Union européenne vers quoi ? Vers quelque chose qui serait une Europe des nations. Alors peut-être quelque chose qui ressemblerait au marché commun qu'on avait dans les années 60, sauf que désormais c'est à 28, ce qui n'empêche qu'effectivement, sans alliés, ils ne seront pas majoritaires dans le prochain Parlement européen et ils n'y arriveront pas.
Jean-Yves Camus, merci d'avoir été avec nous ce soir dans Dimanche Politique. Les nationalistes à l'assaut de l'Europe, un livre publié par Démopolis. Et je rappelle que vous êtes le directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. La politique encore sur Radio France Internationale. Ce sera demain matin l'invité de la rédaction. Il s'agira de Guillaume Larrivé, député de Lyon, secrétaire général délégué du parti Les Républicains. Dimanche Politique était réalisé ce soir par Laurie Plisson.